Je suis dans la couverture de ce match. Les FAP du Cameroun sont éliminés aujourd'hui. Ils reviennent de très loin après avoir perdu leurs deux premiers matchs et sont qualifiés en battant cette équipe de S-Police. Ils sont venus avec des meilleures dispositions. Ils avaient donné l'air de s'être concentrés pour ce match. Mais ils sont pas arrivés au bout de leurs objectifs parce que, justement, sur un plan tactique et technique, ils ont pêché. Le coaching staff n'a pas pu et à aucun moment pouvoir ramener leur équipe dans le jeu. L'équipe en tant que telle n'a pas joué comme une équipe, mais une constellation de joueurs individuels, et ça n'a pas payé malheureusement à la fin de cette compétition chèque. Et donc
nous allons donner la parole à Sedina qui va nous aussi dire comment il a vu le match des Amalek et les forces armées de Cameroun. Sedina, vous m'entendez?
Oui, cher, je vous entends.
Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe, du match de ces Zamalek d'Égypte et les forces de police, armée de police du Cameroun?
Oui, je pense qu'au début du match, comme on a pu le constater, les FAP ont relativement maîtrisé cette attaque du Zamalek qui est assez redoutable. Mais comme l'a si bien souligné Eugène, la force des forces armées et police, c'était les remonts en première mi-temps. Et dès l'instant qu'on a mis remis, en point d'ancrage dans la raquette, on a vu que cette équipe du FAP a perdu ses repères, parce que quand ils n'avaient plus les rebonds, ils ne parvenaient plus à assurer un bon repli défensif, et ils ne parvenaient plus également à avoir de secondes chances en attaque. Et à partir de ce moment-là, les Amalek a pu, à partir de ce point d'ancrage dans la raquette, s'appuyer sur ses arrières. Et comme vous l'avez dit, Mohamed Abdelatif, qui est à la NBA Academy de Moore, a fait une grosse différence. Et je pense aussi que ça montre un peu la réussite de la politique de la NBA en Afrique, parce qu'avoir un joueur de cette qualité qui est produit par la NBA Academy Africa, ça montre toute la pertinence de la politique de développement initiée par Amadou Gallofal depuis la NBA Africa et qui continue avec cette basketball africaine. Et je pense que c'est ce genre de modèle-là qui va permettre de développer le basketball africain, parce qu'il est au milieu de joueurs très expérimentés comme Solo Diabaté, entre autres Anas, mais il parvient à tirer son épingle du jeu et même à terminer parmi les meilleurs marqueurs de ce quart de finale-là. Donc je pense que les shots ont été assez laxistes défensivement, notamment sur le repli et les transitions. C'est pour ça qu'ils ont pris beaucoup de points en contre-attaque. Ils ont été également tactiquement très légers. Comme on a l'habitude de le dire, ils étaient dispersés tactiquement. L'entraîneur Lazare Adingouno n'a pas pu faire les réajustements. C'est pour ça qu'après la mi-temps, lors du troisième quart-temps, ils ont perdu le fil. Et lors du quatrième quart-temps, ils ont littéralement coulé jusqu'à perdre ce match-là avec près de 30 points d'écart.
Tout à fait, Sedina, c'est bien cela. Malheureusement, malgré qu'ils aient bien abordé cette partie lors de la première mi-temps, ils ont pêché malheureusement dans leur jeu individuel. Ils ont passé trop de temps à dribbler au lieu de passer la balle et bouger. Et comme tu l'as dit, les contre-attaques en deuxième quart-temps leur a été fatal aussi parce que ils n'ont pas su assurer le repli défensif. Repli défensif, comme je le disais, un chèque qui démarre après le rebond de l'adversaire, parce que l'erreur qu'ils ont faite, c'est que quand les Amalek prenaient les rebonds, ils tournaient le dos et ils repartaient en défense, ce qui était mauvais. Ils auraient dû faire ralentir la première passe, et en faisant cela, en obligeant celui qui prenait le rebond à tourner le dos au camp adverse, en faisant ça, ça donne le temps aux arrières de rentrer. Ça, c'est des choses qui sont techniques, qui se travaillent à l'entraînement. Et malheureusement, beaucoup d'équipes, quand on voit les gens, après avoir essayé de se battre pour prendre le rebond, quand ils l'ont pas, ont tendance à abandonner l'effort à ce niveau-là, ce qui permet à l'équipe adverse, si elle court, de marquer très facilement des points. Et c'est ce qui s'est passé lors de ce match entre les FAP du Cameroun et le Zamalek d'Égypte. En tout cas, il n'y a pas plus à apprendre. La seule chose qu'on peut comprendre, c'est que cette équipe de Zamalek, par contre, qui avait très mal commencé le premier match, ouais, à mon avis, Cheikh Sedina, devrait a dû pécher peut-être par un excès de confiance contre cette équipe de FAP qui les a bousculés.
Oui.
Mais dès qu'ils ont réussi à se reprendre, ils ont sorti leur jeu, un jeu où les joueurs ont c'était qui déroulait un jeu complet avec une paire d'arrière qui faisait leur travail à l'intérieur. En tout cas, un jeu complet sur le plan offensif. Aussi bien sur le plan offensif que défensif, Cheikh.
Oui.
Et donc, on se retrouve finalement avec une victoire très facile de cette équipe qui mérite de l'emporter sur l'ensemble des quatre cartons.
Je voulais aussi ajouter, Eugène, que l'équipe camerounaise, l'équipe force des armées de basketball, force d'armée de police de Cameroun, ils ont vraiment mis le paquet au premier carton, deuxième carton, et on a vu vraiment que quand tu regardes le match même, on voit que ils ont fait jouer l'équipe Zarnak, l'équipe Zamalek, ils ont fait jouer au premier, au troisième carton. C'est-à-dire qu'ils les ont poussés de vraiment jouer, et même si si tu regardes le rythme du match du début à la fin, on peut pas confondre vitesse et précipitation au basket. Si tu es là, il y a la vitesse qui compte, mais précipitation, c'est une autre chose. C'est ce qu'on a vu avec l'équipe de Cameroun, qui a vraiment montré qu'ils avaient les talents, mais ils n'ont pas seulement bien exploité ça sur le terrain, et vu de l'opportunité qu'ils avaient devant une grande équipe comme les Amalek, qui sont vraiment soudés. D'ailleurs, qui voient vraiment que le troisième carton, le quatrième carton, qui est très important dans les baskets, l'équipe n'a pas manqué la chance de prendre l'avantage sur ça. Vraiment, avoir les écarts depuis le troisième carton jusqu'au quatrième carton, c'est à son effet qui creusait. Donc, ils étaient consistants avec ce qu'ils font sur le terrain, et c'est ça qu'ils ont donné la victoire. Vraiment, on félicite l'équipe camerounaise, vraiment, qui force armée de police qui a vraiment fait une prestation très très bien, et on compte de les voir dans le futur avec de grandes équipes.
Tout à fait, c'est ce qui s'est passé. Cette équipe des forces armées de police devront apprendre de cette expérience Sedina et devront mieux se préparer pour la prochaine le prochain bal qui aura lieu l'année prochaine. D'ailleurs, durant ce match, on a entendu le journaliste dire qu'ils avaient gagné le championnat et donc ils étaient qualifiés pour les éliminatoires de cette ligue pour l'année prochaine. Cédina, tu es là?
Oui, je pense que comme Cheikh l'a dit et comme tu l'as dit, pour l'avenir, il faudra que cette équipe de forces armées de police basketball soit surtout plus à l'aise sur le plan collectif, sur le plan tactique. Parce que c'est les deux endroits où ils ont pêché. Du côté des individualités, on se rend compte au fur et à mesure que les matchs passent qu'ils ont l'effectif pour participer à cette ligue-là. Mais par séquence de matchs, et surtout par mi-temps, ils pêchent énormément sur l'aspect tactique et surtout sur l'aspect collectif. Aujourd'hui encore, on l'a vu, ils ont bien démarré collectivement, mais après, ils ont énormément pêché dans l'aspect circulation de balles. Et ils ont également été comme déboussolés en défense, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une circulation de balles assez rapide et assez vite de la part des Gamalais, la défense des FAP se mettait en ordre dispersé, ce qui les a perdus au fur et à mesure du match.
Tout à fait. En tout cas, ce match est du passé. Donc, cette équipe des FAP va quitter la compétition. Et donc, tout à l'heure, nous félicitons cette équipe de Zamalek qui a prouvé que devant la difficulté, ils ont su le challenge ou le défi que cette équipe de FAP leur a donné. Ils ont pu se réajuster et rapidement prendre le contrôle. Et donc, à nos auditeurs de la Voix d'Amérique, 82 pour le Zamalek contre 53 pour les forces armées. Mais cette journée n'est pas terminée puisque dans le prochain match, qui se jouera tout à l'heure à 21h heure locale de Kigali, donc 20h heure de Kinshasa et 19h heure de Dakar, le Petro de Luanda recroise le fer avec l'association sportive de Salé, équipe qui se sont qui se sont rencontrés lors des matchs préliminaires, lors des matchs de groupe Sedina, et qui se retrouvent à cause justement du fait qu'il n'y avait que trois groupes qui ont joué pendant cette compétition, et que qu'on appelle ça le fait que Salé soit le moins bon deuxième de cette compétition a permis, du moins a fait en sorte que le troisième meilleur premier joue contre le plus mauvais des numéros 2 des deuxièmes de la compétition. Donc on a un match, on a un repeat de ce match qui avait fait que l'équipe de Pétrole Luanda avait défait par un large écart après au cours du troisième, quatrième carton, cette équipe de AS Salé qui n'a pas su malheureusement avoir des nerfs solides et qui a flanché largement pendant ce quatrième carton qui a vu une équipe de Luanda d'une certaine manière les battre par un score fleuve, puisque le score était de, pour que je ne me trompe pas, de 97 à 78, donc 19 points d'écart, Sedina.
Oui, c'est un match où le Petro de Luanda, comme tu l'as dit, a marché sur le quatrième carton. Et cela montre également un aspect très important de ce que tu dis souvent, ça a des aspects mentaux et primordiaux en basketball, parce que ça permet à une équipe de tenir du premier carton au dernier carton. Maintenant, on a vu que sur certains matchs, les joueurs flanchaient, et ça a été le cas de l'AS Salé, parce que lors de leur dernier match contre le Petro de Luanda, qui était une petite finale de ce groupe, et qu'on retrouve quelques jours après, par le hasard du calendrier et du système. Je pense que lors du premier match, ils ont fait un mano à mano très intéressant, mais comme tu l'as dit, dans le quatrième quart-temps, c'est l'aspect mental qui détermine un peu la victoire, et ils ont flanché. Aujourd'hui, il leur faudra déjà bien entrer dans ce match, et surtout, s'ils font un bon mano à mano, ou bien s'ils sont devant, qu'ils parviennent à maintenir le rythme, parce que le plus important, c'est bien de commencer de manière intéressante, comme l'a fait tout à l'heure l'étape, mais c'est encore mieux de tenir le rythme et surtout de bien boucler le match.
Tout à fait. En tout cas, ce match va nous donner un repeat de ce match de poule. C'est deux équipes qui se connaissent très très bien. Et donc, ce qu'on avait vu lors du match de groupe, on a vu une équipe de Salé qui avait démarré ce match, qui avait pris, qui était d'abord derrière, puisque c'est Luanda qui avait la réussite au premier carton. Puis on a vu une équipe de Salé qui est revenue, qui a pris le dessus sur cette équipe de Luanda, qui a pris le contrôle grâce à leur meilleur marqueur, l'Américain Rashad Dean James, qui a été formidable lors de ce match, puisque coup sur coup il a gardé son équipe dans le match, mais par la suite, pour une raison ou une autre, je n'ai pas compris qu'il n'ait pas trop joué pendant ce quatrième quart-temps, et ça a permis à cette équipe de Petro de Luanda, dont le score était beaucoup plus équilibré, parce que il y avait de nombreux joueurs qui arrivaient à marquer des points, que cela soit John Pedro, que ce soit Antoine Scott, que ce soit Vedelicio Joaquim, sans oublier l'ancien de cette équipe du Petro de Luanda, qui là j'ai un peu oublié son nom, mais qui a déclencher une série de trois points les uns après les autres, et qui
a parlé Tyrell
l'ancien de l'équipe angolaise de basketball, en tout cas son nom reviendra, et qui a pu permettre à cette équipe de Petro de Luanda de faire son jeu comme il se doit, et donc au fur et à mesure que le troisième quart-temps avançait, ils ont pu prendre le dessus, Et puis, quand le quatrième carton...
Quand tu parles d'Olympio Cipriano.
Cipriano. Mm-hmm. Olympio Cipriano, qui a réellement fait un match monstrueux et qui a permis à cette équipe de Luanda de reprendre le dessus et de dominer son adversaire d'une manière qu'on ne pouvait pas penser que ça pouvait se passer. Et de l'autre côté, on a vu une équipe de Salé qui, pour une raison ou une autre, a commencé à se plaindre des coups de sifflet. Et donc, d'une certaine manière, on pourrit leur basketball. Et ça les a fait sortir, ils se sont déconcentrés, ils sont sortis complètement de ce match et ils se sont fait littéralement manger par cette équipe de Petro de Luanda.
Si l'ASL ne parvient pas à trouver la solution Ryan Richards, ils vont encore perdre ce match parce que lors de leur match précédent, on a vu que quand il est sorti du banc, il a posé énormément de problèmes. Pourtant, en défense, par son activité, qu'en attaque, par son apport, 19 points, il avait même terminé le meilleur marqueur du peuple de Luanda. Donc, aujourd'hui encore, si le match est aussi serré, il va faire la différence. Lors du précédent match, celui qui avait permis au Petro de littéralement dominer le deuxième quart-temps. Lors du troisième, il s'était reposé, le match était redevenu serré. Lors du quatrième quart-temps, il a été remis tout le temps avec Olympio Cipriano et à eux deux, ils ont fait plier le match. Donc, aujourd'hui, c'est les deux équations majeures que l'entraîneur de l'ASL doit résoudre s'il veut que son équipe passe en demi-finale de cette NBA African League.
Tout à fait. En tout cas, je crois que les péchés mignons justement de ces équipes, souvent, ils se reposent trop sur un joueur. Et c'est ce que l'ASL a fait. Il faudrait qu'ils puissent diversifier leur attaque, qu'ils fassent plus de mouvements. Peuvent ne pas faire la même erreur que les forces armées de police ont faite et qu'ils puissent du moins faire participer plusieurs autres joueurs sur le plan offensif. Je crois qu'il y a l'autre meneur américain, si je me trompe pas, Antoine Scott. Terrell de Van Stoglin, qu'il faut qu'ils impliquent un peu plus pour permettre à leur équipe de pouvoir rester dans cette compétition. Dans le cas contraire, ça sera difficile parce que ce que les gens oublient souvent, peut-être qu'on peut le rappeler à nos auditeurs, cette équipe de Petro de Luanda est remplie de joueurs de l'équipe nationale d'Angola. Et ces joueurs, c'est des joueurs super expérimentés qui ont joué des Coupes du Monde, qui ont joué des Jeux Olympiques et qui sont habitués à jouer le basketball angolais, qui est un basket de patience, un basket de mouvement, d'écran et de tir à trois points, parce que c'est comme ça que l'Angola a toujours évolué, que ce soit en équipe nationale ou en club. Et ça se revoit dans cette équipe de Luanda qui avait déjà été d'ailleurs championne l'Afro-Basket des clubs champions en 2017, donc elle n'est pas nouvelle dans la compétition. C'est des joueurs qui sont constamment en préparation, qui font des préparations de très haut niveau, contrairement à d'autres équipes. C'est l'une des rares des pays d'Afrique noire, je peux dire, qui investit énormément dans le professionnalisme, dans le basketball.
Ils ont plus de moyens.
Exactement, ils y mettent les moyens, mais ils ont aussi un savoir-faire qui date depuis le début des fins des années 79, parce que si on repart sur le basketball angolais, il faut qu'on en parle quand même. C'était un pays qui est arrivé dans la compétition internationale en nation en 1977 et qui s'était fait littéralement, qui avait terminé pratiquement dernier, qui sont revenus en 79, qui ont dû terminer avant-dernier, et en 81, ils sont remontés légèrement et c'est en 83 que l'Angola a fait sa grande entrée dans le basketball africain, où on a vu une superbe équipe d'Angola, je me rappelle Alexandrie, qui a joué cette finale contre l'équipe d'Égypte. Ils avaient perdu, c'était incliné parce que équipe jeune, n'étant pas encore habituée à la pression du public et ainsi de suite, avait un peu abandonné ce match et l'avait perdu. Mais en 85, ils se sont encore retrouvés en finale, cette fois-ci contre la Côte d'Ivoire. C'était à peu près le même scénario. En 87, ils ont terminé troisième. En 89, finalement, à Luanda, ils sont devenus champions d'Afrique. Et puis, ils ont répété ça en 91, en 93, en 95. À Dakar, en 97, ils avaient terminé troisième. Ils sont revenus en 99, en 2001, en 2003, en 2005, en 2007, en 2009, ils ont gagné successivement tous ces championnats d'Afrique. Ouais. Et donc, c'est les Moraïs existaient déjà à partir de 2005, Olympio depuis 2003. C'est l'Angola, c'est un programme de continuité, Sedina. Et ça se voit dans leur club. C'est pas seulement au niveau national. C'est de la routine pour eux quand ils jouent au basketball, ça devient une habitude.
Et comme tu as l'habitude de le rappeler, je te relance sur ce point, $500,000 l'année pour jouer de basketball, c'est le but de l'indigène de plus pour pays.
Tout à fait. En tout cas, comme on dit, non seulement ils mettent les moyens, mais ils ont développé les ressources humaines, parce que si, pour ceux qui sont et qui iront ou qui sont allés à Luanda, c'est un pays qui avait non seulement les infrastructures, la citadella. Lorsqu'ils ont organisé le championnat d'Afrique 2007, ils ont organisé cette compétition dans 4 villes différentes. Et chaque groupe était dans une ville différente. Et les matchs de quart de finale et demi-finale et finale se sont joués finalement la citadella à Luanda. Et donc c'est juste pour dire qu'ils ont mis le paquet, ils avaient déjà développé, ils avaient un building pour le sport. La médecine de sport depuis les années 83. Et donc, ils étaient en avance sur beaucoup de pays. Leurs entraîneurs étaient formés. Je me rappelle, j'ai oublié un peu le nom de celui qui a conçu le programme de basketball angolais, qui avait constaté que lorsqu'il jouait contre des équipes centrafricaines, il n'arrivait pas à faire la différence parce qu'on avait un basket qui était totalement différent, où notre jeu n'était pas basé sur des systèmes classiques de basketball. Ils avaient envoyé une équipe de coachs en Centrafrique pour comprendre comment le Centrafrique jouait. Et ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre, ils ont adapté ça avec leur style, et c'est comme ça que leur programme a commencé. Et donc ce soir, nous allons avoir affaire à une sorte de match revanche. Est-ce que cette équipe de Salé va pouvoir tenir la dragée haute? Est-ce que mentalement, cette fois-ci, ils vont être physiquement prêts et mentalement prêts pour pouvoir jouer 4 cartons du match? Ça c'est la question qu'on se pose, parce que on a vu un meilleur travail qui avait été fait au niveau du coach brésilien du Petro de Luanda. Est-ce que le coach de Salé va pouvoir garder ses joueurs concentrés et pouvoir nous garder un peu dans le suspense dans ce match, parce que bon, on a été un peu déçus par ce qui s'est passé, par le match qui s'est terminé là, entre le FAP et le Zamalek. Est-ce qu'on aura une meilleure partie à voir? Est-ce que nos auditeurs vont avoir leur fin sera ils vont avoir pour leur fin dans ce match entre le AS Salé et le Petro de Luanda?
Bon, moi quand même, je pense que c'est, comme tu l'as bien dit, c'est un match de revanche entre ces deux équipes qui se croisent encore une deuxième fois en moins d'une semaine. C'est une chance pour l'équipe marocaine, AS Salé du Maroc, de se montrer vraiment favori de partir aux prochaines étapes du playoff. Mais l'équipe Luanda aussi, ils sont, comme tu l'as bien dit, c'est une équipe qui a vraiment un record de championnat afro-basket africain. Et tout le monde le connaît avec leur talent et la manière dont ils shootent les ballons sur le terrain et la manière dont joue en défense. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à voir s'ils vont arriver à tenir tout ça dans ce match de revanche contre l'équipe maghreb marocaine, qui sont vraiment solides aussi, qui ont beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de joueurs américains comme Tyrell Devanton, Kieran Devant Stoglin, c'est un meneur le numéro 41 qui a d'ailleurs marqué 41 points dans son avant-dernier match, et son dernier match il a marqué 25 points contre la même équipe. Si l'équipe angolaise les laisse jouer, on ne sera pas surpris de voir numéro 41 Tyrell marquer encore 40 points contre eux, parce que c'est un joueur qui ouvre l'occasion de partir au cerceau à tout moment, et puis quand il va au cerceau, il est très talentueux, il peut marquer dans des conditions très difficiles avec la main gauche et la main droite. Aussi le numéro 12 Mohamed Belhadar, le pivot, et il y a aussi le numéro 10, Rashad James, les meneurs américains. C'est les deux qui sont vraiment les deux meilleurs joueurs de cette équipe AS Salé du Maroc. Mais on a aussi vu que Olympia Cipriano qui a vraiment donné le ton dans les matchs précédents contre cette équipe AS Salé du Maroc, et qui a vraiment montré que l'équipe angolaise n'a pas dit son dernier mot dans ce tournoi, qui a marqué 17 points. D'ailleurs, c'est lui-même qui a fait des paniers successifs, décisifs pour l'équipe, pour lui donner la confiance vraiment de shooter la balle. Et le numéro 33, Carlos Morias, a fini le match avec 13 points. Et Ryan Richards, c'est un pivot des États-Unis ici, et c'est le numéro 44 qui a marqué 19 points en shootant beaucoup de 3 points. Et puis c'est un pivot qui est très expérimenté aussi. On va le voir dans les postes. Comme tu le vois bien, toutes les équipes au Rwanda savent shooter les 3 points. Du meneur jusqu'au pivot, tout le monde shoot les 3 points. Quand tu regardes le numéro 41, Vadelis Joaquin, c'est un joueur qui met beaucoup de 3 points aussi en tant que pivot. Il a marqué 10 points, le numéro 44, 19 points, et dans les 19 points, ils ont au moins 3 points dans les 19 points. Donc ça veut dire que l'équipe angolaise, c'est vraiment une équipe qui est vraiment facile, c'est vraiment difficile à les battre dans une match s'ils mettent vraiment leurs 3 points, et s'ils sont consistants avec leurs 3 points. Mais l'équipe Salé aussi, c'est une équipe, si tu dors sur eux seulement, ils vont prendre l'écart, et puis s'ils prennent les cas, ça va être trop difficile de le faire sortir, comme je t'ai dit, au troisième carton et au quatrième carton. Le carton vraiment où les joueurs ont expérimenté mettre les paquets, on a vu ça avec tous les joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Au troisième, quatrième carton, c'est le moment pour eux de vraiment briller, montrer au monde que vraiment ils ont l'expérience de se jouer de basket depuis des années. Donc l'équipe, les deux équipes ont des joueurs comme ça qui peuvent vraiment qui vont pas hésiter de prendre l'avantage à l'occasion si on les donne ça dans les matchs. Et c'est ce qu'on espère, on vient voir le match prochain qui va venir dans
une heure. Yeah. Ouais, dans quelques minutes. En tout cas, ce qui est sûr, Sedina, il y a deux autres statistiques qui ne trompent pas. On voit du côté de l'AS Salé, on se rend compte que les joueurs de l'AS Salé, du moins l'équipe de l'AS Salé, ne fait pas beaucoup autant de changements que celle de Petro de Luanda, parce que quand on voit dans les matchs, on peut voir que leur leader en minutes, les trois meilleurs joueurs de Salé ont 106 minutes de jeu, 102 minutes de jeu et 99 minutes de jeu, alors que du côté de Petro, on a John Pedro qui a 78, Moraes qui a 77. Ça, c'est d'une part. Et au niveau du point, on voit qu'il y a un meilleur partage du point aussi. On voit que deux joueurs de cette équipe d'AS Salé, en personne de Stoglin et James, ont 93 sur 2 points, pendant que Pedro, Scott et Joaquim du Petro ont des points. Donc, on peut voir d'une certaine manière deux styles de jeu, la profondeur du banc. Penses-tu, comme on l'avait vu pour Maputo qui joue avec des joueurs d'entrée de jeu de longues minutes, penses-tu que ça va jouer aussi un rôle dans le résultat de ce match? C'est dit là?
Ça va, allô?
Oui.
Oui. Ça va être déterminant parce que, comme on le disait tantôt, lors du premier match, les titulaires ont pratiquement fait le jeu égal et la différence s'est faite au niveau des bancs. Donc, le fait de faire tourner l'équipe, le fait surtout qu'il y ait une bonne circulation de la balle et que les joueurs se partagent les points sera déterminant. Ce match-là, c'est un match où on peut s'appuyer sur des certitudes parce que les deux équipes se sont affrontées il y a quelques jours. Et à partir des éléments de ce match-là, on peut facilement dire que, en tout cas, d'après mon point de vue, la clé du match tournera autour de deux choses. L'apport du banc et surtout, comme je l'ai dit tantôt, le système que l'entraîneur de l'AS Salé va mettre en place pour contrecarrer ce qu'il avait perdu lors du match précédent, c'est-à-dire l'apport de Ryan Richards et de Olympio Cipriano, qui n'était pas parvenu à neutraliser Richards dans la raquette et Cipriano sur les tirs extérieurs. Et s'il parvient à faire une mise en place tactique qui puisse contenir ces deux-là, pense que, comme on l'a vu lors du match précédent, les 5 vols, donc la différence était au niveau du banc. Et c'est deux jours clés de Petro Luanda sont au niveau du banc. En plus, Cheikh le disait tout à l'heure, il a cité Carlos Moraes. On a vu que Carlos Moraes a fait l'un de ses matchs les plus intéressants contre l'Aïs-Calais. Il a le plus confiance, il a le terminé, comme on l'a dit tout à l'heure, au-delà des 10 points avec 3 points sur le mobile. Donc, ça aussi, ce sera un élément supplémentaire que l'Aïs-Calais et son entraîneur devront avoir à lui, parce que si Carlos Moraes
tout à fait.
Si je dis au niveau qu'on nous connaît, ce sera très intéressant et ce sera surtout très préjudiciable à l'Aïs-Calais.
Tout à fait. Depuis la Voix de l'Amérique, Jean Péroa Pédéma, rejoint par Sedina Abagué, nous vous disons rendez-vous dans quelques minutes pour suivre ce match entre Petro de Luanda et l'Aïs-Calais. Ça sera un match dynamite. À tout à l'heure.